et sans que les gens aient eu les moyens de bien se positionner, d'être suffisamment bien informés pour pouvoir...
Bah, l'exemple, c'est que, soi-disant, que les gens sont favorables à l'état d'urgence. Mmh. Ça prouve qu'ils n'ont pas affiché, enfin, de mon point de vue, ils n'ont pas affiché le problème. Sous l'effet de l'émotion, parce que c'est vrai que l'émotion, maintenant, c'est en fonction de ça qu'on gouverne, c'est grave.
Actuellement, c'est pas brillant ce qu'on a à voir et à entendre, mais il y a quand même des milliers d'élus qui font un travail de terrain comme tout à fait qui sont engagés, qui sont des gens de conviction.
Vous faites partie des gens qui ont encore confiance en les partis politiques.
Posé sous cet angle, écoutez, confiance, le mot est un peu fort, mais je veux dire, tant qu'il n'y a rien à mettre à la place, avec.
D'accord. Est-ce que vous participeriez à un débat citoyen?
Oui, pourquoi pas.
Ça vous est déjà arrivé?
En tant que tel, non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est nouveau dans le paysage, le débat citoyen.
On n'a pas l'impression qu'ils se rendent compte.
Et pour vous, ça passe par quoi, justement, cette prise de conscience? Notamment par l'engagement associatif?
Ah bon, ouais. Oui, mais justement, c'est pas... Oui,
mais enfin, c'est pas nous,
c'est
pas à nous.
C'est pas normal, c'est maintenant, si ils comptent aux associations pour aider les gens qui sont dans la précarité, bon, c'est pas... Bon, ça devrait être
c'est à eux, d'abord,
au gouvernement de gérer. On paie des impôts pour qu'ils gèrent mieux la société.
D'accord. Vous ne seriez pas partisan d'une démocratie plus directe, par exemple?
Oui, mais c'est pas facile, hein. J'en ai parlé une fois dans une réunion, et puis on m'a dit, une fois que vous avez élu, maintenant vous n'avez plus rien à dire. Mmh. Bon, moi je trouve pas, je suis pour le participatisme, mais bon.
Merci beaucoup Émilien pour ce micro-trottoir réalisé aujourd'hui même à Rouen. Donc voilà, un regard tout frais qui n'est pas biaisé par une actualité qui serait arrivée les jours derniers. Voilà, c'était vraiment aujourd'hui. Sébastien et Florent, peut-être une réaction à chaud à ce que vous avez pu entendre comme propos. Florent.
Moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que finalement là on se rend bien compte que les citoyens ils se rendent compte qu'ils ont envie, de parler, ils ont envie de participer. On a entendu plusieurs fois l'engagement citoyen qu'effectivement beaucoup d'associations aujourd'hui avaient une réelle importance dans la société actuelle, parce qu'effectivement les aides aux personnes en difficulté ou les associations écolo, enfin tout ce qui est alerte publique, ça passe par ça, hein. C'est rarement les politiques qui ouvrent ces débats-là ou qui font des gestes envers les citoyens. Et puis plusieurs fois, c'est vrai qu'on se rend bien compte que le droit de vote, c'est un peu la chose qui revient de façon très récurrente dans les paroles des citoyens comme quelque chose d'important, parce que c'est ancré, on nous l'apprend dès le plus jeune âge.
Oui.
Mais ça reste vraiment pour eux l'outil d'excellence de l'expression démocratique.
Voilà. Parce que c'est celui qu'on utilise depuis le XVIIIe siècle. Mmh. Donc c'est difficile de... Et c'est vrai qu'une dame, je ne sais pas dans quelle occasion elle a pu parler de ça, mais elle a parlé de démocratie directe. On lui a dit, non, puisque maintenant que vous avez voté, vous n'avez plus rien à dire. Donc ça prouve bien que le droit de vote, il a quand même ses limites. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a bien vu que les citoyens avaient vraiment à cœur de reprendre le débat.
Ouais. Alors il y a également une personne, un monsieur je crois, qui disait qu'il y a aussi énormément d'élus qui sont sur le terrain, qui sont attachés aux réalités, parce qu'il ne faut pas non plus avoir une approche qui soit monolithique, il ne faut pas être tombé dans un espèce de populisme qui dirait tous les élus dans le même sac. Est-ce que, Sébastien et Florent, vous faites une distinction entre peut-être la démocratie au niveau national et la démocratie à l'échelle des territoires?
Oui, bien sûr. Je pense que, d'après le sondage, il y a énormément de personnes qui sont déçues des politiques, comme quoi ils ne se préoccupent pas de leurs affaires, mais plus à leur petite personne pour se faire réélire. Mais on sait très bien qu'il y a des milliers de maires en France qui font un travail énorme pour leur commune et puis pour les citoyens. Donc oui, bien sûr qu'il y a une grosse différence entre le gouvernement, dont la plupart d'ailleurs ne sont pas élus, mais ils sont en général nommés,
oui,
puisque
ministres.
C'est le président qui est élu. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de gens, puis même des députés, il y en a vraiment qui sont...
Ouais. Et d'ailleurs, que si on revient à cette démocratie des territoires, tout à l'heure on parlait de tirage au sort ou d'outils plus participatifs, ils existent dans certaines configurations. Je pense par exemple à la politique de la ville, où les intercommunalités, notamment, qui sont compétentes en la matière, peuvent mettre en place des conseils citoyens. Alors c'est des outils assez récents, mais qui proposent du tirage au sort. Et donc il y a des choses comme ça qui sont en train de se mettre sur le terrain. Est-ce que vous regardez de près justement comment vont vivre peut-être ces nouveaux espaces démocratiques?
Sébastien. Oui, tout à fait. On est très observateur de ces nouvelles expériences. Voilà, parce que je pense que l'enjeu, je pense, par rapport à ça, c'est qu'il y ait un travail de co-construction entre l'élu et le citoyen, qu'il n'y ait plus cette séparation qu'on voit trop. Et je pense que l'habitant a aussi une expertise, a aussi un savoir, a aussi des connaissances, l'élu également. Et je pense que de ce travail commun peut sortir véritablement de très bons projets. Voilà.
Et à la fois, on sait que dans certaines instances, par exemple sur les agglomérations ou ce que l'on appelle les pays, il y a des conseils de développement, donc ce sont des instances participatives inscrites dans la loi, une loi de 1999, la loi aménagement du territoire, dite loi Voinet. Et ben finalement, c'est pas si simple de faire vivre ces espaces. On a des retours d'expérience d'élus qui ont du mal à trouver des citoyens volontaires pour passer quelques heures, pour faire des propositions, regarder. Donc oui, on sent qu'il y a une attente de participation, mais en même temps, quand des espaces sont ouverts, c'est difficile de trouver les gens pour venir. Sébastien.
Oui, tout à fait. Je pense que on a été trop habitué en tant que citoyen, à ne pas justement décider. Et donc, je pense que c'est aussi aux habitants de se remettre aussi en question par rapport à ça et de pas forcément attendre en permanence que les autres décident à notre place. Je pense que justement là, c'est en ayant cette idée que l'on peut décider, c'est-à-dire avoir confiance en soi aussi, parce que ça passe par ça également, parce que le système, il est fait actuellement que une fois qu'on a voté, c'est l'élu qui décide de tout. Donc effectivement, on est éduqué dans ce système-là. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut nous rééduquer d'une certaine manière aussi.
Donc vous appelez à un renouveau, ou hausser en tout cas l'exigence de citoyenneté que chaque personne devrait s'appliquer pour être active.
Oui, effectivement, il faut devenir citoyen. Je pense qu'on n'est pas suffisamment citoyen et que c'est un apprentissage. On n'est pas citoyen, on le devient. Et pour le moment, il faut nous-mêmes qu'on se persuade d'être citoyen.
Oui. Est-ce que Florent, par rapport à ça aussi, à cette exigence que doivent avoir de devenir une personne, à devenir un citoyen engagé et actif?
Oui, c'est important de se réapproprier ce débat-là, et justement, je pense, via l'éducation populaire, via le débat citoyen qu'on va organiser mercredi, c'est avec ces outils-là qu'on réapprend à échanger, à argumenter, à s'écouter, à réussir à faire des synthèses. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, effectivement, c'est vrai qu'on arrive un petit peu à plus de participation. On voit que les citoyens ne rentrent pas dedans, mais est-ce qu'il y a beaucoup de publicité là-dessus? Est-ce qu'effectivement les citoyens le savent?
Ouais.
C'est une question, ça. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens savent qu'ils ont possibilité d'apporter leur contribution.
Justement, la question aussi d'ailleurs de l'accès à l'information et des médias est évoquée pendant le micro-trottoir. Je vous propose qu'on écoute un morceau et on s'intéresse à cette question-là de l'information juste après.
freedom, I'd meet them. Where'd you read them? This one needs a brand new weed em. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them.
C'était Mia, le morceau s'appelle Borders, un morceau également dans l'actualité qui sans doute nous pose à tous des questions de citoyenneté, comment on interpelle aussi les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux, internationaux, locaux, quant au sort qui est réservé aux réfugiés, que ce soit sur notre continent, dans notre pays, aux frontières de ce continent et de tous ceux qui finissent leur vie dramatiquement dans les mers. Encore tout récemment, hein, on a appris que environ 10 000 enfants étaient portés disparus hein, depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Situation catastrophique qui là aussi nous interpelle et pose question. Vous êtes toujours sur HDR, le mix des cultures, et jusqu'à 21h, on parle démocratie avec Sébastien Bonnet et Florent Lecoq, qui ce mercredi 3 février organise un débat « Que signifie vivre en démocratie ?» à 19h15. Vous avez rendez-vous à Faites-le vous-même, c'est 192 rue Audrebec, pour une heure et plus de débat autour de ces questions. Alors, juste avant d'écouter ce morceau, on évoquait la question de l'information. Il y a une offre d'espace de démocratie participative dont les citoyens ne se saisissent pas forcément. Comment rendre visibles ces espaces? Est-ce que les médias, qu'ils soient locaux ou nationaux, donnent à voir ces potentialités de participation? Et comment aussi les médias traitent peut-être de la question démocratique? Comment vous avez l'impression que la démocratie est traitée par les médias, Florent et Sébastien? Sébastien.
Moi, je trouve qu'elle n'est pas, tellement traitée par les médias. Essentiellement, elle est traitée au moment des élections.
Oui.
Voilà.
À grand renfort de petites phrases.
Voilà, on va.
De joutes verbales.
Exactement, on va s'émouvoir du taux d'abstention. Mm-hmm. On va parler des scores, des partis, etc. Et puis, en dehors de ça, j'ai pas l'impression que la démocratie est véritablement un sujet de préoccupation dans les médias. Enfin, je suis quand même assez lecteur de pas mal de journaux en matière de quotidien. Il faut aller dans des revues un peu spécialisées pour aller chercher des sujets autour de la démocratie, quoi.
Et d'ailleurs, émergent ces derniers temps énormément d'initiatives qui sont plus ou moins médiatisées, mais je pense à des mouvements ou des associations comme Démocratie Ouverte, la démarche laprimaire.org, je crois, qui sont nombreuses. Les médias s'en font un peu l'écho, mais s'en font l'écho. On trouve l'information quand on la cherche, quand on cherche cette information-là, Florent.
Bah, c'est sûr que ça, c'est des. Je pense que le numérique apporte beaucoup, à mon avis, au débat, à la contribution des citoyens. Pour l'instant, c'est encore novateur, c'est encore récent, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Je crois sur laprimaire.org qui permet à tout citoyen de pouvoir se présenter hors parti. C'est pour la présidentielle de 2017.
Tout à fait.
Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 12 000 signataires, c'est peut-être encore un petit peu faible, mais effectivement, je pense que si ça grossit, ça sera intéressant. Moi, j'y crois peut-être plus pour 2022, bon, c'est mon sentiment personnel, mais c'est intéressant. Mais un site qui, pour moi, est plus dans le concret, c'est Parlement et citoyens. C'est un site extrêmement intéressant parce que il y a des contributions vraiment entre les élus et les citoyens. Des parlementaires, députés ou sénateurs demandent aux citoyens de contribuer avec eux à proposer une loi aux assemblées. Ça, c'est concret parce qu'on a eu sur la biodiversité, je crois actuellement c'est sur la Constitution. Donc je pense que là, on est vraiment dans du concret. Si ça pouvait émerger, si on pouvait avoir plus d'initiatives comme ça, ce serait bien.
Alors justement, Florent, vous parlez de constitution. En Islande, il y a eu toute une démarche, une constituante, où les citoyens étaient appelés à prendre la plume, sinon le clavier, pour faire des propositions. Est-ce que vous trouvez que c'est une initiative inspirante pour vous? Vous aimeriez voir ce même type de processus, même s'il y a eu un système d'entonnoir important entre l'ouverture très large et à la fin c'était 25 personnes je crois qui participaient effectivement aux travaux avec des résultats plutôt mitigés, mais est-ce que cette démarche constituante ça vous séduit?
Ah bah,
Sébastien,
complètement.
Question facile.
Complètement, je dirais que ça nous fait rêver d'une certaine manière que la constitution soit rédigée, écrite par le citoyen. Je pense que toute constitution digne de ce nom devrait être écrite par les citoyens.
Et en même temps, à l'époque, il y a eu une petite polémique en France parce que les tenants de ce type de démarche trouvaient que les médias français n'avaient absolument pas parlé de toute cette dynamique parce que peut-être de lobby, de ne pas donner idée au peuple français qu'ils pouvaient eux aussi être engagés largement. Alors, je ne sais pas si cette polémique était fondée ou si le sujet était trop complexe pour faire la une des médias, mais il y a toujours ce lien entre médias et initiatives citoyennes qui peut être complexe.
Oui, tout à fait. Le cas de l'Islande, effectivement, n'a pas été énormément discuté dans les médias, enfin dans certains médias en tout cas. En tout cas, pour nous citoyens, la question de la Constitution, elle est très importante. La Constitution, c'est le texte le plus important dans notre pays. C'est un texte qui nous protège des abus de pouvoir. Montesquieu, qui est un philosophe des Lumières, avait déjà dit que, notamment, il fallait séparer les pouvoirs. Pourquoi il fallait séparer les pouvoirs ? Parce que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Donc, il avait imaginé cette idée de séparation des pouvoirs. Et je pense que, fondamentalement, ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et en ce sens, je pense qu'il faut que nous, citoyens, nous apprenons à écrire la Constitution. Je pense qu'il faut, l'imaginer. Je pense que nous en sommes capables. C'est un exercice que nous, on voudrait bien faire. Des ateliers constituants, par exemple. Voilà.
Alors, est-ce que, justement, sur cette idée d'ateliers constituants, est-ce que ces ateliers doivent amener prochainement à entrer dans une nouvelle république, une sixième république, une nouvelle constitution qui remettrait le citoyen au cœur ? Ou est-ce que, finalement, cette question, elle n'est que périphérique ? Avec le système institutionnel qui existe aujourd'hui, on pourrait faire évoluer, avec de la bonne volonté, celle des élus et des citoyens ?
Nous, ce qu'on enfin, moi, mon avis personnel sur le sujet, je pense que il faut comment dire, sans parler forcément de sixième république, mais en tout cas de créer une vraie constitution, en tout cas une vraie démocratie avec une vraie constitution écrite par les citoyens. Je pense que c'est un travail sur du long terme. Voilà, qui peut amener un certain nombre de changements. Voilà, c'est certainement un travail à mener aussi avec des experts, des associations, des citoyens, avec des élus. C'est un travail collaboratif qu'il faut mener ensemble.
Donc,
c'est un travail de longue haleine, parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de citoyens qui soient concernés par cette question. Si c'est un minimum de citoyens qui se posent cette question de la constitution, d'une nouvelle constitution, ça va être difficile d'y arriver. C'est ça qui a un petit peu posé problème en Islande, c'est que finalement, je crois que justement les entreprises, il me semble, n'étaient pas vraiment concernées par
le processus.
Ouais, par le processus. Et du coup, il n'y a pas eu une diversité suffisante pour faire
De participants.
Ouais.
Alors, justement, vous le disiez, Florent, c'est un travail de longue haleine, mais en même temps, on sent échéance électorale après échéance électorale, on dit qu'il est de plus en plus urgent, justement, de réinvestir, en tout cas, l'espace démocratique avec de nouveaux outils. Qu'est-ce qu'il faut comme déclic pour justement passer d'un monde d'une démocratie représentative à une démocratie plus ouverte, un peu plus directe, plus participative? Est-ce qu'il faut attendre un déclic ou c'est... Voilà, il faut se dire ça sera petit à petit le long terme, où on disait 2022 tout à l'heure, peut-être encore plus loin, 2027. La question du temps est complexe,
oui,
Sébastien.
Effectivement, je pense que ça passe par une prise de conscience. Nous, c'est notre objectif de discuter. Ça veut dire quoi la démocratie ? C'est justement, ça passe par une prise de conscience, de définir exactement dans quel régime nous vivons. Et à partir de là, je dirais, se passer le message de citoyen à citoyen, discuter, débattre, chacun à son niveau. Et on peut espérer que par le biais de la discussion, du débat sur des sujets qui sont essentiels, qui est pour nous une des causes, on va dire, des problèmes que l'on vit, que nous vivons aujourd'hui, c'est justement cette insuffisance de démocratie. Je pense qu'en abordant ces discussions, ces débats, on peut espérer que de nouvelles idées émergent.
Ouais. Alors après, on a aussi vu ces dernières années des grands mouvements, que ce soit les Indignés ou Occupy, qui remettaient là, pour le coup, sur les places publiques, une démocratie directe. Il y a eu un certain nombre d'attentes par rapport à ces mouvements. Voilà, les 99%, les gens se reposent des questions, vont réinvestir. Et puis finalement, le soufflet est retombé. Est-ce que vous avez aussi un regard sur ces temps-là qui auraient pu être des déclics, justement, peut-être qu'on attend ? Florent ?
Bah, disons que ça reste souvent marginal, et puis finalement, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans les médias, à part les personnes réellement intéressées par ces sujets-là. Cela dit, il y a quand même quelques petits partis politiques dits citoyens qui permettent de faire entrer un peu plus les citoyens dans ce processus-là. Mmh. Il y a aussi des médias qui sont indépendants, parce que vu qu'on parlait des médias tout à l'heure, l'indépendance des médias, elle a un gros rôle à jouer là-dedans, et puis c'est le numérique aussi, Internet, je pense, c'est ce qui permet aussi de se renseigner un maximum.
Oui, d'aller plus facilement trouver l'information que l'on cherche. Et vous êtes toujours dans ton livre sur HDR, il est 20h55, encore 5 minutes ensemble pour continuer à parler de démocratie. Et j'aimerais qu'on évoque, vous avez utilisé le mot à plusieurs reprises, le mot pouvoir, et l'exercice du pouvoir qui est sans doute un exercice complexe. Est-ce que justement l'exercice du pouvoir n'est pas en lui-même en fait forcément se coupe à un moment d'une démocratie qui soit la plus horizontale, parce que il y a des prises de décisions importantes à prendre, il peut y avoir plein d'impacts environnementaux, sociaux, économiques, etc. Et que justement un des rôles difficiles qu'on confie aujourd'hui aux élus, c'est d'être en capacité de trancher, de prendre les décisions, Sébastien.
Oui, tout à fait. Par rapport à ce mot pouvoir, moi, ce que je veux dire par là, c'est notamment le pouvoir de décision. Je pense que il est intéressant de voir que c'est essentiellement un pouvoir de décision dont il s'agit, qui peut être effectivement partagé entre l'élu et le citoyen. Et je pense que cette idée que c'est forcément une personne qui va décider qui va trancher décider pour tout le monde, je pense que cette idée de chef, justement, cette idée de pyramide, je pense qu'elle est aussi à remettre en cause, et qu'il faut aller justement vers un pouvoir beaucoup plus collectif, beaucoup plus partagé. Mm-hmm. Et là, je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de penser qu'il y a forcément un chef qui va décider à notre place. Quoi.
Donc d'ailleurs, tout à l'heure, je crois que c'est Florent, vous avez évoqué les sociétés coopératives et l'ESS, où c'est un homme égale une voix, quel que soit qu'on apporte X milliers d'euros ou un euro dans une structure, un homme égale une voix. Donc, et puis on parle aussi beaucoup d'économie collaborative, il faudrait arriver à une démocratie collaborative pour remettre du collectif dans la décision publique.
Bah, ça va exactement dans le même sens, c'est-à-dire que il faut qu'un maximum de citoyens comprennent qu'ils ont le pouvoir, ils ont la possibilité d'apporter leur contribution à la société, et il faudrait arriver à trouver des processus, il y en a plusieurs, et c'est ce qu'on voudrait voir émerger à notre prochain débat le 3 février. C'est comme ça qu'on va y arriver. Ouais.
Et sans doute qu'il faut largement s'appuyer sur les élus, et notamment les élus locaux, qui sont dans ces dynamiques-là et qui n'attendent que le soutien, la participation de citoyens, d'habitants des villes, des campagnes, pour donner corps et donner vie à de nouveaux espaces, à de nouvelles prises, nouveaux formats de prise de décision. Je croyais que vous vouliez réagir, Sébastien.
Pour dire oui, tout à fait d'accord, les élus locaux ont un rôle très important, parce qu'ils bénéficient d'une confiance assez importante de la part de leurs habitants. Donc je pense que il faut s'appuyer là-dessus, les élus peuvent s'appuyer sur cette confiance pour justement créer des nouveaux dispositifs qui associent les habitants dans les décisions de la commune. Et je pense que là il y a un travail qui commence déjà, je parlais tout à l'heure de l'exemple de Grenoble, on a parlé de la ville de Saillant, mais il y a encore d'autres exemples près de Mulhouse, où il y a des conseils participatifs qui associent à la fois les élus, les associations, des experts, c'est dans le Haut-Rhin. Je pense que la pratique de la démocratie, je pense qu'elle reviendra en force, notamment dans les communes.
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on n'a pas évoqué tous les outils de participation qui sont réglementaires autour des enquêtes publiques, l'élaboration des documents d'urbanisme, etc., qui sont une forme de participation, d'ouverture au débat, mais vous appelez à d'autres espaces démocratiques. Je rappelle le rendez-vous. Sébastien Bonnet et Florent Lecoq, on vous retrouve mercredi 3 février à 19h30 19h15. La question que vous poserez, c'est celle-ci. Que signifie vivre en démocratie? Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous y rendre. Ça se passe à Faites-le-vous-même, 192 rue Aude de Rebec à Rouen. Eh bien, l'émission Ton Libre est déjà terminée. Merci à vous d'avoir été avec nous. D'ici la prochaine fois, soyons toujours un peu fous et continuons de rêver. Ciao.
Les 21h du soir. Les 21h.